Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf doc, la chronique qui explore avec vous le monde médical. On repart pour un Quoi de neuf doc, nouvelle formule pour cette deuxième saison. Je vous propose de continuer à explorer le monde médical avec une équipe de médecins experts sur différents sujets.
Women are born with pain.
Les femmes sont nées avec la douleur. C'est notre destinée physiologique. Les douleurs de règles, les seins lourds, l'accouchement. Nous portons ça en nous toute notre vie. Les hommes, non. Ils doivent aller la chercher, ils inventent des dieux, des démons, des choses pour nous faire sentir coupables, ce que nous faisons très bien toutes seules d'ailleurs. Et puis, ils créent les guerres pour pouvoir ressentir des choses et se toucher les uns et les autres. Et quand il n'y a plus de guerre, ils jouent au rugby. Et nous, on a tout ça qui continue ici, à l'intérieur. On souffre régulièrement depuis des années et des années. Et puis juste quand tu te dis, ça y est, je suis en paix avec tout ça, que se passe-t-il ? La ménopause arrive. Cette putain de ménopause arrive. Et c'est la chose la plus incroyable au monde. Et oui, ton plancher pelvien s'effondre, t'as chaud, tout le monde s'en fout. Mais enfin, tu es libre.
Un extrait de la série Fleabag avec Christine Scott Thomas pour la version originale et Audrey Radonzi pour la traduction. Martin Vinclair, bonjour. Après Le cœur des femmes, vous publiez C'est mon corps. Dans ce livre, il y a, chères auditrices, toutes les réponses à vos questions. Pour moi, elles devraient d'ailleurs être dans tous les CDI et médiathèques de France et même plus chez vous. Martin Vinclair, comment est-ce que vous avez construit ce livre ?
Alors, je l'ai construit à partir d'une conférence qu'on m'avait demandé de donner il y a 4 ans à Lyon et qui était une conférence sur les idées reçues en santé des femmes. Et donc, au départ, le livre devait s'appeler « C'est dans la tête » parce que finalement, c'était un livre qui dénonçait le fait que quand des femmes exprimaient des sensations de leur corps, beaucoup de gens, y compris des médecins et surtout des médecins, parce que c'est ça le problème, leur disaient « Mais non, madame, c'est dans votre tête, ça n'existe pas ». Or, j'ai écrit un livre sur la douleur dans lequel, avec mon co-auteur Alain Gagnon, on a passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer que justement, la douleur, c'est une chose personnelle. Ça ne peut pas être discuté. Quand quelqu'un dit « j'ai mal », ça ne se discute pas. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer de la soulager, mais on ne peut pas dire « c'est pas vrai ». Eh bien, toutes les sensations qu'on ressent dans le corps sont du même ordre, puisque c'est une perception qui ne peut pas être partagée sinon par la parole, ou par la mimique, ou par l'attitude. Et les femmes sont victimes de cette idée selon laquelle ce qu'elles ressentent, si ce n'est pas décrit dans les livres de médecine, ça n'existe pas. Alors c'est parti de ça. J'ai recueilli toutes les questions que j'avais reçues soit en consultation, soit par courriel, parce que je reçois des courriels via mon site internet depuis presque 20 ans. Donc j'ai essayé de rassembler toutes ces questions et d'y répondre comme si j'étais une seule consultation et que je répondais à une femme qui me posait toutes ces questions. Et là, les deux grands principes de réponse, c'est quand on a des réponses scientifiques, je les donne. Quand on n'en a pas, je dis on n'en a pas, ou on peut faire des hypothèses, mais on n'a pas forcément de réponse définitive. Mais surtout, la deuxième chose que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de proposer une méthode aux femmes, une méthode de réflexion, une méthode de critique des informations qu'on leur donne, une méthode pour interroger ou répondre aux médecins et ne pas se faire imposer par les médecins des choses qu'on ne devrait pas leur imposer parce que ce sont des citoyennes.
D'ailleurs, dès le début, vous introduisez un nouveau concept, celui de la charge physiologique. On avait entendu parler de la charge mentale des femmes. Il y avait une bande dessinée qui était assez parlante pour en témoigner. C'est quoi la charge physiologique des femmes ?
La charge physiologique des femmes, c'est tous les événements physiologiques, c'est-à-dire, entre guillemets, normaux, qui surviennent dans la vie d'une femme et qui alourdissent sa vie. Alors ces événements, ils commencent à la puberté, ils se terminent à la ménopause, et parfois ils durent un peu après. C'est tous les bouleversements hormonaux, cycliques, métaboliques, et qui sont liés à sa fonction reproductive, c'est-à-dire au fonctionnement de son cycle, aux grossesses éventuelles, à l'allaitement, et encore une fois, à la ménopause. Tous ces bouleversements n'existent pas chez les hommes. Les hommes ne vivent jamais ce genre d'événement. Quand une femme est enceinte, son compagnon, si elle vit avec un homme, son compagnon ne vivra jamais les transformations du corps, diverses et variées. Il ne sera jamais en danger, alors que même si ce n'est pas très fréquent, il y a un risque non nul qu'une femme meure de sa grossesse, soit pendant la grossesse, soit à l'accouchement, soit après. Ou simplement quelque chose de plus simple, c'est les règles. Les règles, c'est un poids, parce que ça impose des contraintes techniques et pratiques constantes. Ça impose un coût. Et troisièmement, ça peut en plus être un poids en douleur si vous avez des règles douloureuses ou si vous avez une endométriose et que chaque fois que vous avez vos règles, vous êtes plié en quatre et obligé d'aller vous coucher. Et en plus, ça a un poids sur le plan professionnel si effectivement ça vous handicape. Charge physiologique, c'est inhérent au fait d'avoir un corps de femme et ça devrait être pris en compte.
À la lecture de votre livre, on se rend compte que c'est pas pris en compte et que même encore plus loin, la douleur des femmes n'est pas prise en compte. Pourquoi ?
L'enseignement de la médecine est fait par des, enfin, a été conçu et écrit par des hommes autour de la physiologie masculine, tout simplement. La physiologie féminine ne rentrait pas dans leur cadre, ou sinon en tant que spécialité. C'est-à-dire qu'on peut se spécialiser dans les femmes comme si les femmes, c'était... Si vous y réfléchissez, on se spécialise en gynécologie obstétrique comme si on se spécialisait en cardiologie, c'est-à-dire dans les maladies du cœur. La physiologie féminine, la physiologie de la grossesse, ça devrait être enseigné à tout le monde, parce que ça concerne plus de la moitié de la population. Or, en médecine, c'est considéré comme une sorte de spécialité, c'est-à-dire de spécialité pathologique. Donc, ça contribue à laisser entendre que, d'une part, ce que vivent les femmes est pathologique, et que, deuxièmement, ce qui est pathologique et qui mérite d'être traité dans ce que vivent les femmes, c'est seulement ce qui est dans les cours de médecine. Or, c'est pas du tout le cas. La physiologie féminine n'est pas forcément pénible, mais elle peut occasionner des tas de soucis quotidiens qui ne sont pas des maladies, mais qui méritent d'être entendus. Je vous donne un exemple très simple. Une femme qui a des règles très abondantes tous les mois peut, au bout de 2-3 ans, avoir ce qu'on appelle une anémie, c'est-à-dire un manque de fer et donc un manque de globules rouges. Ça devient une maladie seulement si on la laisse avec son anémie. À ce moment-là, elle aura les conséquences de l'anémie. Si on lui donne du fer, ça va. C'est quelque chose qui est hyper connu. Si c'était quelque chose qui faisait partie de l'enseignement général, a fortiori de la population, mais aussi des médecins, c'est-à-dire si tous les médecins étaient formés à la gynécologie et à l'obstétrique, les femmes seraient beaucoup mieux prises en charge. Comme l'enseignement ne prend pas ça en compte, les médecins sont désarmés devant les femmes et donc ils ont tendance à mettre ce que les femmes leur disent de côté et à dire « écoutez, moi je n'ai pas appris, c'est pas mon problème », ou à dire « c'est dans votre tête, madame ». La question, vous parliez de la douleur, il y a aussi les préjugés sexistes. Les préjugés sexistes font que, par exemple, les femmes, quand elles se plaignent d'avoir mal, sont moins bien écoutées, moins bien diagnostiquées et moins bien soulagées que les hommes, à douleur équivalente. C'est-à-dire, pour une fracture de jambe, vous avez deux personnes, un homme et une femme, qui ont le même âge, qui se viennent de se casser la jambe en tombant, je ne sais pas moi, dans l'escalier, pour le même type de douleur, les femmes vont être moins bien soulagées.
Et du coup, ça me fait me poser cette question. Est-ce qu'il y a des pays où, justement, on est en train de travailler un peu plus à ça, à réfléchir sur comment prendre en compte mieux la douleur des femmes ?
Moi, le premier livre sur la santé des femmes que j'ai lu, je l'ai lu en 1977. C'était « Notre corps, nous-mêmes », qui était la première et, à l'époque, la dernière édition française d'un livre américain qui s'appelait « Our Body, Ourselves ». Qui était un livre de santé des femmes, écrit par des femmes, pour les femmes. C'était une énorme bible sur la santé des femmes. Et il y avait aussi bien la physiologie que les anomalies, mais ça commençait par la physiologie. Ça datait de 1970. Bon. Il y a eu une réédition en langue française complétée, mise à jour, etc., juste cette année. Ce livre-là, il y a eu 15 éditions aux États-Unis. En Angleterre, il y a des flopées d'éditions de livres sur la santé des femmes. En France, on a l'impression que le corps médical français, la contraception et la santé des femmes, ça ne les intéressait pas.
Et pourtant, 7 consultations sur 10 en médecine générale concernent des femmes. Hein.
Voilà, et c'est pas possible de passer à côté de ça. Alors évidemment, quand on est, comme c'était mon cas dans les années 70, quand on est sensibilisé aux questions féministes, c'est-à-dire que moi, un de mes premiers engagements, c'était l'IVG et la contraception. Donc à partir de ce moment-là, on va être attentif à tout le reste, évidemment. Ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est que ce soit laissé à la discrétion de l'individu. Si les femmes l'intéressent, il va s'y intéresser. S'il ne s'y intéresse pas, il ne les soignera pas. Alors que ça devrait être une politique de santé, d'une part, et puis ça devrait être une politique éducative dans le sein des facs de médecine.
Une autre information que vous donnez dans le livre qui m'a aussi paru importante, c'est les médicaments qui sont testés majoritairement sur des hommes sans penser aux effets secondaires sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Autrefois, c'est-à-dire avant les années 80, les médicaments étaient testés de façon complètement sauvage par les médecins, qui testaient ça sur tout le monde. Il y a eu beaucoup d'expérimentations dans les hôpitaux, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple, par des gens qui faisaient ça comme ils avaient envie. Les principes de la bioéthique veulent qu'on ne peut pas faire ça. Parce que c'est très rigoureux et que c'est très contraignant, quand on expérimente un nouveau médicament, le fabricant, en général, ne cherche pas à recruter des femmes, tout simplement, parce qu'encore une fois, une femme, pendant le cours de l'essai, si l'essai dure ne serait-ce que plus d'un mois, le fabricant ne veut pas que ses participantes puissent être enceintes, parce que c'est très problématique. Non seulement on doit faire sortir la femme de l'essai, mais en plus, si jamais le médicament a été administré pendant qu'elle était enceinte, et s'il y a une anomalie du fœtus, ils vont être responsables pénalement et financièrement. Donc ils excluent les femmes. Le problème, c'est que un corps féminin ne traite pas les médicaments comme un corps masculin, parce que les deux organes, le foie et les reins, ne fonctionnent pas exactement de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Le système nerveux n'a pas la même sensibilité et les mêmes fragilités chez les hommes et chez les femmes. Le système immunitaire est complètement différent. Donc, quand on donne un médicament qu'on a testé uniquement chez les hommes, le risque qu'il y ait des effets secondaires chez des femmes qu'on n'a pas prévu est très grand. Si c'est un médicament pour la thyroïde, ou un médicament pour le système nerveux, ou un médicament pour le sang, ou un médicament pour je ne sais quoi, ça peut être beaucoup plus problématique si justement on n'a pas repéré à l'avance les effets secondaires. Ce qui fait que des femmes qui arrivent avec des effets secondaires de médicaments, elles voient le médecin. Le médecin regarde la notice, il dit « mais c'est pas décrit votre effet secondaire ». Donc c'est dans votre tête. On maltraite des gens, tout simplement parce qu'on fait comme s'ils n'existaient pas. On fait comme si les femmes n'existaient pas.
En lisant votre livre, on va de constat en constat. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour faire changer le système et pour que les femmes soient un peu mieux prises en compte ?
Il faudrait que les facs de médecine, sous l'influence du public, mais aussi du nombre croissant de femmes qui deviennent médecins, prennent conscience du problème. Donc moi, je rêve de ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a, il y a des révolutions à faire qui ne sont pas forcément des révolutions violentes, mais qui sont des révolutions de prise de responsabilité, de prise de force, de prise d'information par les femmes elles-mêmes. Parce qu'on peut pas, on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Ici, nous, dans l'Ain, par exemple, on est dans un désert médical. On a très peu le choix de nos médecins. Comment réagir face à un médecin qui serait maltraitant ou qui ne nous considérerait pas quand on n'a pas le choix, en fait, du médecin ?
Le premier moyen de ne pas se faire imposer quelque chose, c'est de poser des questions. Et de ne pas poser des questions forcément à la personne qui vous cherche à vous imposer quelque chose, mais de poser des questions à d'autres. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'associations, de réseaux sociaux, de patientes, et puis il y a des gens en ligne à qui on peut s'adresser, des gens comme moi, mais il y en a beaucoup. Et c'est surtout ne jamais prendre pour définitif ce qu'on vous dit. Le problème qu'on a en France, et c'est pour ça qu'il y a une différence avec les pays anglo-saxons, c'est que la France est un vieux pays catholique. Et que dans les pays catholiques, l'argument d'autorité, c'est-à-dire ce que la personne d'autorité vous dit, ne peut pas être discuté. Il ne peut même pas être débattu ou argumenté. Il doit être obéi, sinon c'est un péché, sinon vous y perdez votre âme. Et c'est un peu ce qui se passe de façon subliminale et inconsciente chez les personnes qui vont voir des médecins et qui entendent les médecins leur dire « c'est comme ça et pas autrement ». Est-ce qu'elles ont le sentiment que c'est un péché de ne pas obéir aux médecins? Et ça, c'est un mode de pensée dont il faut sortir et dont il faut... Et ça va être long. Ça va être long de sortir de ça, de se dire « mais attends, c'est mon corps, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps ». La personne qui cherche à vous contraindre ou à vous faire peur se disqualifie. Elle disqualifie sa compétence. Et donc vous êtes en droit d'aller chercher une réponse ailleurs. Alors, c'est pas toujours facile, mais rappelez-vous, encore une fois, le médecin vous fait une prescription, vous pouvez choisir de ne pas la prendre. Et c'est pas forcément un crime de ne pas prendre une prescription qui vous a été faite. Si les femmes et les hommes se considèrent comme les égaux et les égales des médecins, et disent « mais attendez monsieur, vous ne pouvez pas me parler comme si j'étais un enfant, vous ne pouvez pas me parler comme si vous étiez mon confesseur ». Des fois on ne peut pas le lui dire, mais on peut le penser. C'est ce qui est en train de se passer, hein, très progressivement. La population est de plus en plus éduquée, elle est de plus en plus critique, elle est de plus en plus exigeante, parce qu'elle est en droit de l'être. Et c'est très important de savoir que il ne faut pas non plus être les otages de gens qui se comportent pas bien. Je suis sûr que même dans ce désert médical, il y a des très bons médecins, et des fois il faut faire 50 km pour aller les voir, mais il vaut mieux aller faire 50 km et voir un bon médecin que rester à côté, si on peut, que rester à côté d'un mauvais médecin et se faire maltraiter.
Oui, et reprendre du coup confiance en soi avec la connaissance, et notamment grâce à votre livre. Hein, on parle de puberté, des règles, de la sexualité, de la grossesse, de l'endométriose ou encore de la ménopause. Et moi, vraiment, j'invite les auditrices et même les auditeurs à le lire parce qu'il répondra à des questions qu'on se pose mais qu'on n'ose pas poser forcément aux médecins, alors qu'on pose parfois peut-être à Google ou à un forum sur Internet, mais autant avoir les réponses d'un vrai médecin. J'invite aussi les auditeurs, auditrices à aller sur votre blog martinvinclair.com et je vous remercie d'avoir à nouveau voulu répondre à nos questions.
Merci.
Quoi de neuf doc à retrouver le mois prochain. Il sera question des maladies de l'hiver pour les enfants et du Covid avec le célèbre médecin pédiatre administrateur de la page To Be or Not To Bib. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.
Quoi de neuf doc? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.